Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24 en DAB+, et sur radiocampusparis.org.
Il est 20h et tout de suite, c'est l'heure de On se lave et on se casse, l'émission féministe des casseuses d'ambiance de Radio Campus Paris.
Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches.
Pourquoi le féminisme ?
Nous les aimons, on n'ose plus rien faire, on veut plus rien dire.
Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes.
Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec.
Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur.
On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné.
Il y a un problème avec monsieur.
Non, il n'y a pas de problème.
Vous aussi, on se lève et on se bat.
Pas du clito.
Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse.
Bim, c'est encore la fin du patriarcat.
Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute.
Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous et à tous. Salut Mao.
Salut Pauline.
Et on commence cette émission par l'édito. Et c'est Mao cette fois-ci qui a été très inspirée. De quoi tu vas nous parler ?
Je vais vous parler d'un rapport qui donne pas vraiment envie de sourire. Il y a 3 semaines, le Haut Conseil à l'égalité a publié son 5e rapport annuel sur l'état du sexisme en France. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce bilan n'est pas très encourageant, je dirais même plus, ça craint. Ça fait quelques années que féministe n'est plus un gros mot, la révolution MeToo a eu lieu en 2017, on instaure des formations à l'égalité dans les entreprises, la parole sur le sexisme et les violences se libère, des tas de livres sont publiés, des articles sont écrits, des podcasts enregistrés. D'ailleurs, et le HCE le montre, les Françaises et les Français ont plus que jamais conscience des inégalités. Mais paradoxalement, les comportements et les idées sexistes ne diminuent pas et prospèrent même chez les plus jeunes. Car oui, ce qui est assez glaçant dans ce rapport, ce n'est pas tant la persistance du sexisme à la papa, exemple 27% des femmes et 40% des hommes estiment normal qu'une femme s'arrête de travailler pour s'occuper de ses enfants. Non, ce qui inquiète vraiment, c'est plutôt la progression des opinions d'inspiration masculiniste chez les hommes jeunes. Exemple, 20% des 25-34 ans considèrent qu'il faut se vanter de ses exploits sexuels auprès de ses amis pour être respecté en tant qu'homme, contre 8% dans les hommes en moyenne. Et presque un quart d'entre eux pensent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter, contre 11% en moyenne. Alors oui, les choses changent, et il y a réellement des choses qui changent en bien, mais ce rapport a le mérite de rappeler que rien n'est jamais gagné et qu'il faut rester alerte face aux dangers qu'on ne voit pas venir. Rester vigilant notamment face à l'impact politique du numérique, et c'est ce dont on va parler ce soir. Alors avant de nous lancer, puisqu'il paraît que c'est la journée du love, militons pour la solidarité contre le backlash, contre le retour de bâtons antiféministes, serrons-nous les coudes, sans naïveté mais avec bienveillance.
Et dans notre dernière émission, pardon, on avait parlé de Twitch et de cyberharcèlement, dont sont victimes énormément de streameuses, mais ce sont plus largement les créatrices de contenu sur Internet qui sont touchées par le sexisme et la misogynie, des algorithmes et des usagers, entre autres. Alors cette fois-ci, on élargit un peu le sujet, on va vous parler du phénomène d'effacement des femmes d'Internet et de comment le numérique aggrave les inégalités entre femmes et hommes, mais aussi entre personnes racisées et personnes blanches, ou encore entre personnes trans et personnes cis. Pour parler de tout ça, on accueille Mathilde Saliou, qui est journaliste et autrice d'un ouvrage passionnant intitulé « Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités » qui sort en librairie dès demain. Bienvenue Mathilde Saliou.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Et on accueille aussi Amélie Lenoir, coprésidente des Internets, un collectif qui existe depuis 2016 et qui a pour mission de valoriser et accompagner et encourager les créatrices de contenus vidéo sur Internet, notamment sur YouTube, mais pas que, pour améliorer donc leur présence et leur visibilité. Bienvenue Amélie Lenoir.
Bonsoir, merci.
Alors Mathilde Saliou, en ouverture de cet ouvrage, vous expliquez que ce qui vous a donné envie d'écrire, c'est un paradoxe entre Internet comme espace de liberté, d'échange et d'apprentissage, et puis Internet dans toute sa toxicité, l'Internet de QAnon et du cyberharcèlement entre autres. Est-ce que à la fin de ce livre, vous avez résolu cette contradiction ?
Non, mais à la limite, c'est ce qui rend si passionnant de creuser le. De creuser le monde numérique.
Oui, et du coup, comme le HCE le disait, la société française reste très sexiste dans toutes ses sphères.
Oui, et justement, l'une des 10 recommandations de ce fameux rapport qui figure en première page, ça tombe bien, c'est réguler les contenus numériques pour lutter contre les stéréotypes de représentation dégradante, les traitements inégaux ou violents des femmes, en particulier les contenus pornographiques en ligne. Et ce même rapport cite un sondage pour IronHack, très intéressant d'ailleurs, qui est publié en avril 2022, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme digitale de l'année dernière, donc, dans lequel figure que seulement 59% des personnes interrogées pensent que les femmes sont aussi douées que les hommes pour travailler dans la tech. Et d'ailleurs, ce même sondage explique que 41% des Français interrogés pensent que les femmes ne sont pas capables de travailler dans le secteur tech. L'une des raisons invoquées, c'est que les hommes sont naturellement plus doués pour l'informatique. La fameuse figure du génie technologique masculin que vous éclairez dans votre ouvrage, Mathilde Sayouz.
Oui, exactement. On peut expliquer pourquoi les compétences ne sont pas réparties de la même manière chez les hommes que chez les femmes. C'est simplement que, en termes de socialisation, on ne pousse pas les garçons et les filles à faire le même type d'activité. Et typiquement, les garçons, on les pousse plus vers des matières abstraites, carrées, supposément viriles. Donc typiquement, on les pousse plus vers des carrières scientifiques, de sciences dures, de mathématiques, tout ce qui va servir plus tard à rentrer dans l'informatique. Tandis que les filles, comme on leur apprend d'autres types de compétences qui sont potentiellement moins recherchées dans le milieu informatique, ça explique au moins en partie pourquoi elles sont beaucoup moins présentes. Mais c'est pas du tout quelque chose de d'essentiel à leur genre féminin qu'elles soient moins présentes dans le monde numérique.
Et Amélie Lenoir, qu'est-ce que vous pensez de ce rapport et de ces chiffres? Est-ce que ça rejoint les expériences des bénévoles, des créatrices avec lesquelles vous travaillez?
Oui, ce qu'on constate, c'est que comme dans tous les secteurs, les femmes ne sont pas visibles, pas mises en valeur, alors qu'en soi, elles ont tout à fait les capacités, mais le public ne le voit pas forcément comme ça.
Alors, pour entrer dans le dur de sujet, allons-y, hein, pour commencer, Mathilde, vous expliquez que les intelligences artificielles, pour qu'elles fonctionnent et qu'elles sortent des résultats, il faut les nourrir avec des informations vraies ou fausses, enfin, il faut les nourrir tout simplement. Et vous parlez de la théorie du garbage in, garbage out. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ?
Garbage in, garbage out, c'est une phrase, c'est un genre de dicton, on va dire, qui est assez connu dans le monde numérique. C'est pas forcément lié à l'intelligence artificielle. C'est simplement pour expliquer que aucune machine numérique n'est plus intelligente qu'aucun humain, en fait, puisque ce sont des constructions qui ont été faites par des hommes et des femmes. Des humains. Et donc, si elle vous renvoie un résultat qui ne vous plaît pas, un résultat faux, un résultat biaisé, quoi que ce soit d'autre, c'est probablement qu'il y a eu des problèmes en entrée dans les données qu'on a fait rentrer dans la machine ou, pour le cas de l'intelligence artificielle, dans la construction même de la machine. Donc après, si vous voulez, je peux vous expliquer pourquoi il y a des biais dans l'intelligence artificielle. C'est un sous-domaine du vaste champ numérique, mais c'est assez intéressant parce que ça bouge beaucoup actuellement et parce que ça permet d'illustrer aussi largement ces questions. On peut en gros résumer en trois points d'où viennent les biais potentiels de ces machines. La première, c'est donc des données elles-mêmes, parce que les données, ce sont des informations qui ont été choisies, triées, hiérarchisées. Donc un peu comme quand on fait un travail éditorial dans un média, il y a forcément des biais qui sont rentrés dedans. Et puis aussi, c'est des données qui représentent la société, en fait, qui viennent d'un monde humain. Et le monde humain est en plein d'inégalités. Il n'est pas complètement incompréhensible qu'elles reproduisent ces inégalités. Un deuxième axe qui explique leur biais, c'est que les constructeurs eux-mêmes, on l'a déjà dit, du coup, sont un groupe assez peu divers, plutôt très masculin, très blanc, occidental aussi, vu les outils qu'on utilise en France et en Europe. Comme ils sont assez peu diversifiés, ils ont pas mal d'angles morts dont ils ne se rendent pas forcément compte avant que le produit soit mis sur le marché ou enfin, utilisé. Et un troisième axe de compréhension, c'est le contexte, la raison pour laquelle on a construit la machine. Si je prends l'exemple d'un algorithme qui serait construit pour vous pousser de l'information a priori la plus pertinente qui soit, si cet algorithme était construit par des médias ou des chercheurs, a priori, il ne servirait qu'à ça, et donc il pourrait s'adapter à vous, à vos envies, à vos habitudes, et vous pousser de l'information très cohérente. Si, en revanche, il est construit par une société privée qui potentiellement veut faire du profit grâce à de la publicité, comme c'est le cas d'un Facebook, cet algorithme y servira aussi et surtout à vous garder connecté. Et donc, il ne vous donnera pas simplement l'information que vous cherchez, mais aussi une information qui vous fait rester en place. Et donc, typiquement, dans les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que les contenus qui gardaient les gens engagés, c'était des contenus clivants, violents, haineux. Et c'est pour ça, en fait, qu'on en voit autant. Enfin, ça explique au moins en partie pourquoi les discussions deviennent aussi violentes en ligne.
Merci pour cette explication qui va permettre de... Enfin, on va tirer tous ces fils tout au long de l'interview. C'est vrai qu'en fait, pour beaucoup de gens, comme on parle de machines et de mathématiques, c'est neutre. Et en fait, vous, ce que vous expliquez, c'est que tout ça est biaisé. Et alors, est-ce que vous pouvez expliquer le concept du coded gaze ?
Le coded gaze, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure en termes de deuxième étape. C'est en gros les personnes qui écrivent, les personnes qui créent les programmes, exactement comme, encore une fois, le parallèle que je trouve le plus simple à comprendre, c'est celui des médias, mais il y en a certainement d'autres. Mais de la même manière que des journalistes et des rédactions choisissent, trient, hiérarchisent les informations qu'elles vont mettre dans leur journal et font des choix qui vont encoder potentiellement une idée, une ligne éditoriale en tout cas, côté numérique, il y a un peu ce travail, même s'il n'est pas du tout réfléchi de cette manière-là. Le coded gaze, c'est simplement le regard qui a été mis dans la machine par les quelques personnes qui l'ont construite, parce que potentiellement, ils ont des oublis, des angles morts, etc.
Des biais cognitifs, du coup, c'est ce que vous disiez, le fait que...
Il y a des biais. Alors, le problème du biais, c'est que finalement, je l'utilise effectivement dans plein de d'endroits différents. Mais les biais cognitifs, c'est le fait que c'est les choses qui nous font réfléchir un peu trop vite et qui parfois nous empêchent de réfléchir de manière plus rationnelle que ce qu'on aurait fait.
Des raccourcis.
Ça, qui nous font faire des raccourcis. Donc ça, typiquement, c'est utilisé par des acteurs numériques pour nous faire rester plus longtemps. Si par exemple Netflix vous propose le prochain épisode de votre série pendant que vous êtes encore en train de regarder celui que vous êtes en train de regarder, c'est pour vous pousser à assez mécaniquement continuer à regarder, et ça joue sur des biais cognitifs, ça joue sur une flémardise de votre cerveau de réfléchir et de se déconnecter si c'est ce qu'il aurait voulu faire en réalité. Et après les biais qui sont encodés, le coded gaze, les biais qui sont encodés dans la machine, c'est plus des questions de regard sur le monde, de regard social. Si les personnes ont des idées sexistes, potentiellement, ça va se retrouver. Si elles ont des idées racistes, potentiellement, ça va se retrouver, ce genre de choses.
Je vais rebondir sur ce que vous dites avec Amélie Lenoir, qui le disait très bien sur le site du collectif des internets. Vous expliquez que le peu de visibilité des femmes sur Internet et sur YouTube, mais pas que, est dû à plusieurs facteurs, dont le fait que les algorithmes favorisent les formats courts, les top 5, etc., parce que ce sont des formats qui sont faciles à voir, qui ne demandent pas trop à réfléchir, et aussi les revisionnages des vidéos qu'on a déjà vues, et le fait qu'il y a aussi une surmédiatisation des youtubeuses beauté, par exemple. Est-ce qu'avec les bénévoles de votre collectif, vous avez pensé à des idées en pratique sur le terrain pour essayer de contrer à votre niveau ces algorithmes malgré tout ?
Alors, juste, notre site n'est pas le plus à jour, donc pour quelques précisions, en ce moment, les formats longs aussi sont mis en avant.
Oui, c'est vrai.
Les youtubeuses beauté ne sont plus tant mises en avant, c'est plutôt les youtubeuses, disons, lifestyle. Et autrement, du coup, nous, ce qu'on essaie de faire à notre échelle, c'est un peu d'éducation. Donc, on a, par exemple, une journée qu'on appelle « Partage ta vidéaste ». Et on va demander aux personnes, aux internautes, de partager des femmes. Et justement, ça va le faire se rendre compte de, en fait, ils suivent peut-être peu de femmes. Et ils vont aller essayer de découvrir d'autres femmes. Donc ça, c'est une des initiatives. Sinon, en éducation, ce qu'on aime bien faire, c'est du coup créer un compte de zéro, un compte YouTube de zéro, et ensuite aller dans les tendances, cliquer sur la vidéo d'un homme et voir vers où l'algorithme nous amène, en allant de vidéo en vidéo avec la première recommandée. Et comme ça, on peut voir qu'en fait, il y a très peu de vidéos faites par des femmes qui vont être recommandées. Et là, on va se rendre compte peut-être du problème et du fait que ce serait intéressant d'aller s'intéresser à des femmes qu'on recommande régulièrement, nous, de façon hebdomadaire sur notre page. Et on a aussi un répertoire qui s'appelle l'Internet Explorer. Et l'idée, c'était de réunir des chaînes YouTube en fonction des thèmes. Et nous, de notre côté, en interne, on a pareil pour Twitch, TikTok, Instagram.
D'accord.
Mais on a un problème d'API, donc on ne peut pas avoir ça sur le site. Mais oui, les répertorier pour se rendre compte du nombre, en fait. Important.
D'accord. Et quand vous faites cette expérience de créer un compte YouTube de zéro pour voir vers où
l'algorithme vous entraîne. Comme vous le disiez, votre site n'est pas actualisé, donc c'est plus trop les visionnages déjà faits et les youtubeuses beauté. C'est quoi comme format que YouTube favorise?
Alors là, ça va plutôt être des fit and fun. Ce qu'on appelle les fit and fun, c'est juste des vidéos où il va y avoir deux chaînes qui vont se rencontrer, qui vont faire des choses un peu drôles. Plutôt, ce comique-là. Le lifestyle, donc quelqu'un qui va faire un vlog et qui va raconter un peu sa vie avec des images par-dessus. C'est ces formats-là qui marchent le plus, je dirais.
D'accord.
Et est-ce que tout ça décourage la créativité ou le fait de faire des formats innovants, différents?
Ça décourage c'est surtout le fait que c'est hyper dur de se faire voir, en fait, de rencontrer son public, surtout. Parce qu'on peut avoir une chaîne géniale, faire des choses incroyables, je sais pas, de la vulgarisation sur un sujet scientifique hyper poussé, ou quelque chose de absolument pas niche, mais qui peut s'adresser à plein de gens, mais ne pas rencontrer son public. Parce que y a pas forcément d'éditorialisation non plus sur YouTube, et l'algorithme ne permet pas une grande visibilité, même s'il y a quelques personnes qui vont réussir à gagner 100 000 abonnés très rapidement, mais c'est vraiment pas la majorité des vidéastes. Et c'est pareil sur Twitch, les femmes sont assez invisibilisées, il y en a beaucoup moins que les hommes qui font des vidéos déjà, du stream.
Donc on reste sur ce problème d'invisibilisation par les algorithmes. L'intelligence artificielle, donc, elle a beaucoup d'arguments pour elle, ça c'est certain, mais d'un point de vue éthique et philosophique, donc ça a l'air de coincer un peu. Est-ce que vous voulez de l'eau? démocratiquement parlant, par exemple, si des algorithmes sont construits en intégrant les inégalités de genre et en intégrant des biais cognitifs, ça voudrait à terme dire que les personnes qui seraient donc traitées différemment selon l'endroit où elles vivent, elles peuvent l'être, leur couleur de peau, leur genre, en ce qui concerne les différents services et entreprises publiques et privées qui utilisent les IA, c'est ça? C'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage.
Juste refaire une précision sur la différence entre biais cognitifs et les biais des algorithmes.
Ouais.
Les biais cognitifs, c'est des choses qu'on a, nous, humains, dans nos cerveaux et sur lesquelles jouent les plateformes, plutôt dans des questions d'interface, par exemple. Donc, il y avait l'exemple de Netflix de tout à l'heure, ou alors un autre exemple, c'est les cookies. Depuis le RGPD en Europe, a priori, on est un peu mieux protégé sur la question de vie privée. On peut dire qu'on ne veut pas que nos données personnelles soient captées. Et pour autant, il y a des sites qui inversent les couleurs sur les petits encarts pour dire « oui, j'accepte que vous preniez mes données personnelles ». Ça, ils le mettent en... Je ne sais jamais, du coup, ils le mettent en vert, je crois. Et non, je refuse, ils le mettent en rouge, alors qu'on s'attendrait à ce que ce soit l'inverse. Et du coup, on clique sur accepter, alors qu'on aimerait qu'ils ne nous suivent pas.
Là, ils jouent. Oui.
C'est ça, ils jouent sur le fait que notre cerveau va trop vite, enfin, ne prend pas le temps de vraiment lire l'information. Et du coup, on se fait piéger et on fait ce qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est un biais cognitif, c'est dans nos cerveaux à nous. Les biais des machines, c'est plus, en gros, les inégalités qu'ils embarquent vraiment, quoi. C'est dans le sens... dans le sens inégalité, dans le sens discrimination, quoi. Une fois ça dit, la question c'était sur les idées éthiques et philosophiques.
Oui, sur le fait que éthiquement et philosophiquement ça bloquait un peu, et que si des entreprises publiques ou privées et des services publics ou privés en utilisent ces IA, étant donné qu'il y a des préjugés, des choses qui sont quand même intégrées dans les informations que cavalent ces IA, ça peut ressortir et se redévelopper.
Les exemples sociaux sont multiples. Si par exemple vous laissez une machine vous laissez un algorithme et qu'ensuite vous le mettez dans un logiciel bancaire et que cette machine elle va en fait aider à faire un score de risque et à décider à la fin si on vous donne un prêt ou pas et à quel montant, si dedans c'est dans les données que vous lui avez données. Il y a une représentation selon laquelle les femmes sont plus dépensières, donc il faut moins leur faire confiance. que les personnes non blanches ne savent pas rembourser leurs prêts ou que sais-je, sans aucune considération pour les contextes sociaux, les raisons qui font que ces éléments sont arrivés dans les données, etc. Et ben après, en bout de chaîne, quand le banquier ou l'assurance, ça marche à peu près pareil, va prendre une décision, il va interroger son logiciel, il y a de très fortes chances que son logiciel lui dise « donner 12 000 milliards d'argent à tel homme blanc et vraiment pas beaucoup à telle femme ou à telle personne non blanche ». Et bizarrement, bah, ça va renforcer un schéma qui existe déjà, bien sûr. Il n'est pas apparu nulle part, encore une fois, il vient du monde social, mais ça va le renforcer. Alors qu'on pourrait, en plus, c'est ça aussi, c'est pour ça que c'est important de creuser ces questions, on pourrait décider, on pourrait travailler, et en vrai, il y a des gens qui travaillent à ça, à corriger ces biais, à essayer de neutraliser certaines inégalités qui sont sociales, mais on peut les neutraliser dans la machine pour faire en sorte d'aller dans le sens inverse, en fait, et d'essayer d'assainir un peu certaines inégalités qui existent dans le monde social. Un autre exemple que je cite rapidement, et parce que c'est vraiment un problème de liberté publique, en fait, c'est les algorithmes de reconnaissance faciale. On a trouvé, il y a Joy Buolamini, qui est une data scientist américaine, et Timnit Gebru, qui ont sorti toutes les deux une étude, enfin c'est surtout Joy Buolamini qui l'a signée en 2018, qui s'appelle Gender Shades, et dans laquelle elle montrait que les principaux modèles de reconnaissance faciale sur le marché reconnaissaient beaucoup mieux les hommes que les femmes, beaucoup mieux les personnes blanches que les personnes non blanches, et quand vous croisez, évidemment, beaucoup mieux les hommes blancs que les femmes noires, en gros. Ces algorithmes, ils peuvent être utilisés pour diverses choses. Ils peuvent par exemple être utilisés pour faire le verrouillage de votre smartphone. Si vous êtes une femme et que ça ne marche pas une fois sur deux, c'est peut-être qu'il y a un problème dans l'algorithme. Je fais un gros raccourci, mais en gros, c'est un peu l'idée. Mais c'est aussi utilisé, par exemple, pour traiter les images captées par les caméras de police. Aux États-Unis, c'est le cas. Et donc, si ensuite le logiciel, vous venez lui demander « Oui, on a capté sur les images tel portrait de telle personne qui a commis un vol ou je ne sais pas quel acte délictueux », et que vous lui dites « Compare-le à notre base de criminels et trouve-nous qui c'est », déjà, est-ce que le criminel est dans la base ? On n'en sait rien. Et ensuite, la machine a toutes les chances de faire des erreurs quand la personne n'est pas blanche, en gros. Et en fait, c'est déjà arrivé. Et après, bon, il y a encore toute une chaîne de réflexion à interroger. Est-ce que les policiers devraient prendre pour argent comptant n'importe quelle décision numérique ? Mais il se trouve qu'il y a plusieurs hommes noirs qui se sont retrouvés en garde à vue pour des durées variables, de quelques heures à quelques jours, alors qu'ils n'avaient rien fait, parce qu'une machine les avait faussement... Enfin, c'était trompé et qu'on avait suivi son résultat et elle les avait identifiés pour quelqu'un qui n'était pas.
Oui, c'est l'idée que le numérique fige, voire renforce ce qui existe déjà. Et donc, vous parliez... d'éventuellement réfléchir à, on va dire, contourner ces biais-là, ce qui n'est pas si simple, puisque en fait, on peut créer de nouveaux biais. Enfin, comment, voilà, la vraie question, c'est quoi finalement un algorithme éthique ?
Bah, ça, c'est une vaste question sur laquelle énormément de chercheurs et d'activistes et de gens de la société civile et de toutes sortes de profils réfléchissent, mais d'ailleurs, plus ils seront, plus nous serons, plus il y aura de solutions et de pistes de réflexion. Donc c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour faire de la vulgarisation et pousser un maximum de gens à s'y intéresser et potentiellement à participer à la conversation. Mais un algorithme éthique, en fait, c'est des décisions qu'on doit prendre en tant que société. Qu'est-ce qu'on estime qui est un algorithme éthique ? Peut-être qu'il y a des sociétés qui vont estimer que si ça marche pour la grande majorité des gens, mais que ça ne marche pas pour les 1% restants, c'est OK. Mais je pose la question, est-ce que ça l'est ? Est-ce que vous pensez que ça devrait l'être ? Quand on sait que pour certains outils, ils sont utilisés sur des millions, voire des milliards de personnes. J'appuie un peu sur le milliard, mais des millions de personnes. Est-ce que c'est OK d'avoir un effet de bord même de 1% ? Ça veut dire qu'on touche des milliers de personnes. Donc c'est un vrai débat social qu'il faut poser. Une autre manière de faire, ce serait de décider qu'on arrête de construire des outils, ou en tout cas... On réduit cette propension qu'on a à vouloir construire des outils parfaitement universels, parce qu'en fait, c'est faux. On se rend compte, une fois qu'on a pris les lunettes féministes ou le regard intersectionnel, on se rend compte très très vite qu'il y a toujours
des
sous-groupes, il y a toujours des angles morts, il y a toujours des angles de la population, en tout cas quand c'est des machines appliquées à des contextes sociaux. Il y a toujours un groupe de population qui va se retrouver moins bien traité qu'un autre, donc peut-être... qu'il faut dès le début se dire que cet algorithme ne servira qu'à un groupe très précis. C'est une autre piste, elle n'est pas forcément valable pour tout, tout est à inventer en vrai.
Et justement, on va continuer d'inventer tout ça, on va juste écouter un peu de musique.
veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Souvent j'ai fait des blackouts trop alcoolisés. J'ai fait couler des larmes et ça je préfère oublier. Mais là j'ai pas décidé. Depuis que tu m'as quitté, j'ai peur de tout oublier. D'oublier qu'on s'est aimé. L'odeur de tes draps froissés s'efface petit à petit. Et quand on me demande si je te connais, moi je sais plus dire oui. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface.
Le temps passe.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Flo, on va t'écouter pour ta chronique musicale.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux nous faire découvrir aujourd'hui ?
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très 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 heureuse d'être avec vous ce soir, en ce soir de fête des amoureux et des amoureuses. Alors qu'à Paris, des couples se rejoignent dans la queue du dernier bar à carottes promu par le bonbon. Et bien, il y a aussi des gens qui sont en train de faire des concours de bisous dans les rues brésiliennes, parce que c'est le carnaval. Alors, je vous parle d'amour, je vous parle du Brésil, et je vais vous parler de MC Carol de Niterói, aka Carol Bandida, la bandite. J'étais à son concert à la station en mai 2022, c'était puissant, c'était chaud, littéralement. Alors, MC Carol, c'est une artiste brésilienne incontournable de la scène funk. Et le funk, ou baile funk, c'est une musique électronique qui vient aujourd'hui principalement des banlieues de Rio et de São Paulo, au Brésil. Le baile, c'est la fête, c'est la danse. À la base, les soirées baile funk, elles s'organisent dans la rue ou dans des grands espaces comme des terrains de foot. Selon l'endroit, le son provient des sound systems des voitures ou alors d'une installation avec scène, DJ et en fait tout ce qu'il faut pour émettre des grosses basses qui vont faire poum, tchac, tchac, poum, tchac, poum, tchac, tchac. Boom, tchac. Bon, retournons à MC Carol. Dans une interview de Trax en 2021, elle raconte qu'elle est entrée dans le funk après avoir été virée de chez elle. Elle rejoint un milieu hyper masculin et décide d'en adopter les codes. Elle comprend bien qu'elle est traitée différemment parce qu'elle est une femme, mais fode, c'est comme on dirait en bon portugais. Elle décide de s'imposer comme leur égale. Elle est une femme, elle est noire, elle est grosse, elle vient d'un quartier populaire, elle dit des gros mots, elle parle de sexe et elle est féministe. Tout ça, elle le revendique dans ses textes, au risque de se mettre à dos sa propre communauté et le public qu'elle a conquis. Prazer, Carol Bandida, representa as mulheres
feminista, represento a Fortune, represento Carolina, represento Dandara e Chica da Silva, sou mulher, sou negra.
Donc ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la chanson 100% féministe à 100% féministe. MC Carol chante avec Carol Conca, une autre rappeuse, cette fois de Curitiba. Elles évoquent d'abord les oppressions subies par les femmes et dont elles ont été témoins. Puis elles disent qu'elles sont déterminées à allier leur force et leur fragilité pour lutter contre cette oppression. Pour ça, elles s'entourent de femmes iconiques, on dirait une espèce d'invocation. Parmi ces femmes, on a Dandara, une guerrière et ancienne esclavisée qui s'est battue pour la liberté des siens pendant la colonisation du Brésil. On a aussi Elsa Soares, une grande chanteuse brésilienne qui, à 80 ans, chantait encore assise sur scène « Non, tu ne lèveras pas la main sur moi ». Et puis on a encore Nina Simone et Frida Kahlo qu'on connaît beaucoup mieux. C'est beau, c'est puissant et ça sonne comme un appel au combat féministe. Bah, pourtant, ce positionnement, il n'a pas plu à tout le monde. Bon, on comprend que les conservatrices aient pu râler, mais des féministes blanches, vraiment ? Bah ouais. En 2019, elle donne une conférence aux États-Unis et à son retour, elle se prend notamment des commentaires de femmes blanches féministes qui veulent faire savoir que même si Carol ne les représente pas. Bon, c'est vrai, on pourrait lui reprocher de pas être toujours trop dans la sororité. Plusieurs de ses chansons sont clairement malveillantes envers des femmes qui apparemment ne lui ont rien fait. Mais en fait, je pense que les féministes blanches, elles ne veulent pas que le féminisme brésilien soit incarné par une femme noire, pauvre et qui en plus est vulgaire. Bon, en plus de tout ça, MC Carol, c'est celle qui te fait bouger les fesses avec beaucoup d'humour. Un petit exemple avec quelques paroles traduites de A Mulher do Borogodó, c'est un titre de son dernier album. Donc en gros, les quelques paroles, c'est « Tu m'as demandé en mariage, mais je comprends pas, je suis une chaudasse, putain. Je veux trois amants, et en même temps. Il veut que j'aille à l'église et que je sois une femme au foyer. Je l'aime, mais je suis pas folle, je vais quand même pas abandonner plusieurs bites pour me contenter d'une seule. » Bon, si ça vous donne pas envie d'aller en savoir plus sur MC Carol de Niterói, alors allez l'écouter, et si vous aimez, suppliez cette queen de revenir nous faire suer à Paris.
Merci beaucoup Flo pour cette chronique gratinée de Saint-Valentin, c'était
avec
parfait.
Plaisir.
On revient donc à nos algorithmes et à nos plateformes et à notre internet. Malheureusement, non. Dans une interview, Amélie Lenoir, je reviens aux internets et à votre collectif. Et en faisant des recherches, j'ai regardé une interview pour Télérama qui date d'il y a un an et demi, en juin 2021, où vous dressiez le constat qu'en effet, les femmes non blanches étaient encore plus mal représentées, ce qui est assez logique quand on lit tout ce qu'on a vu déjà sur les IA et les algorithmes, et qu'elles étaient donc encore plus mal représentées que les femmes blanches. Est-ce que vous avez l'impression, avec votre travail qui s'est élargi aujourd'hui à Twitch et à Instagram, que le constat a un peu évolué depuis 2020-2021, où les mêmes problèmes se reproduisent à l'identique partout?
Pas le même, mais je dirais que ça dépend des plateformes quand même, parce que nous, on a par exemple du mal à trouver des vidéastes sur YouTube, des personnes racisées sur YouTube, mais par contre, sur Instagram, on en trouve bien plus. Sur Twitch, il y a des initiatives comme l'association Afro Gamers ou le collectif Perso Caché qui regroupe justement des personnes racisées et qui nous permet, nous, d'en trouver facilement à recommander et aussi de pouvoir parler de leurs problèmes ensemble. Mais c'est vrai que, et sur TikTok aussi, c'est un peu comme Instagram, on en voit plus. Mais c'est vrai que sur Twitch et surtout YouTube, elles sont mais invisibilisées au possible. Mmh.
Justement, cette invisibilisation des femmes, elle est historique, des femmes et des minorités, et notamment dans l'histoire de l'informatique, où on pense que l'informatique a été construite.
C'est une histoire d'homme.
Voilà, c'est une histoire d'homme. Alors que ce que vous expliquez très bien, Mathilde Salieu, c'est que en fait, des femmes, il y en a depuis très longtemps dans l'informatique, et qu'elles ont vraiment contribué à bâtir ce système-là.
Cette industrie, ouais. Oui, des femmes, il y en a depuis quasiment les débuts. peut-être qu'une première piste d'explication sur pourquoi on ne le sait pas et pourquoi elles ont disparu, c'est que depuis le début, la majorité de leur travail s'est concentrée sur ce qu'aujourd'hui on appelle le logiciel, le software. En gros, les programmes qui font tourner la machine. Et que pendant très longtemps, tant que l'industrie informatique, les gens ne savaient pas trop ce que c'était, ce qui concentrait les regards, c'était peut-être plus la machine, justement, le hardware. Et donc, du coup, on regardait l'ingénieur ou l'inventeur ou l'ingénieur qui avait construit un gros truc, qui savait faire des super calculs super rapidement. Et du coup, on oubliait de regarder qui avait codé, qui avait appris à la machine à faire ces petits calculs super rapidement. Et il y a un cas comme ça que je raconte dans Technoféminisme, à la sortie d'un des premiers très gros ordinateurs aux États-Unis, juste après la Deuxième Guerre mondiale, où ça a été construit, la machine, par deux ingénieurs. Mais il y a une équipe de femmes qui sont allées chercher parmi les équipes de calculatrices qui travaillaient pour l'armée américaine, qui ont eu pour rôle d'apprendre à cette machine à fonctionner et à faire ses calculs rapidement. Il y a notamment deux programmeuses en particulier à qui on demande de coder très rapidement pendant 2 semaines. Elles ont travaillé comme des folles, une série d'opérations qu'ils veulent pouvoir présenter devant la presse. Et le jour de la présentation à la presse, on montre aux journalistes la machine, on la lance, on la voit faire un calcul en 2 minutes. Et les journalistes sont là genre « waouh ». Ils ne sont pas en train de dire que c'est une intelligence artificielle, mais ils sont fascinés par les capacités de cette techno et ils se disent « elle calcule beaucoup plus vite que les humains, elle fait tout en 2 minutes ». Et en fait, en faisant ça, ils viennent d'effacer tout le travail hyper long qui avait été mis derrière, principalement par des femmes, pour faire fonctionner cette machine, lui apprendre à faire les calculs en question. Et ça, c'est un truc qui se répète au fil du temps. Exactement d'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on a, en tant que journaliste, en tout cas, il y a une propension, mais pas que, hein, enfin, c'est tout le monde qui est un peu fasciné par ces innovations. Et d'un côté, c'est compréhensible, mais on a une certaine propension à oublier tout le travail humain qui a été fait derrière. Et typiquement, on oublie, pour rester dans le domaine des inégalités, on oublie très souvent toutes les forces de travail qui viennent souvent de pays, des pays en développement, genre en Afrique, en Asie du Sud-Est, qui ont participé à étiqueter les données qu'on va donner ensuite à la machine et qui ont mis des heures et des heures et des heures pour des salaires pas forcément très hauts, surtout au regard des standards français. Et en fait, ça se répète, ce phénomène d'invisibilisation.
Oui, et donc on place à la fois la machine comme immanente finalement, et comme on le répète depuis le début de cette émission, on pense aussi à des Elon Musk, Peter Thiel, etc. Et c'est plutôt des figures d'hommes blancs qu'on...
Complètement. Dans l'histoire de l'informatique, comme dans l'histoire au sens plus large, on est souvent assez fasciné par le mythe de l'aventurier, le mythe de... l'entrepreneur, le mythe du génie, qui sont autant d'images de souvent d'un même genre de concept où on imagine que quelqu'un, très souvent un homme issu des classes supérieures aisées, a eu brusquement une inspiration quasi divine et a pu créer son œuvre, que son œuvre soit artistique, entrepreneuriale, technique ou autre. Et en fait, c'est normal qu'on soit attiré par ça parce que c'est un très bon récit. C'est du très, très bon storytelling, il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, Steve Jobs le savait très bien, il a beaucoup travaillé pour pousser cette idée. Mais en fait, quand on fait ça, on oublie complètement la réalité qui est que ces gens ne sont jamais sortis de la cuisse de Jupiter, mais bien d'une société précise, dans un contexte précis, que souvent ils ont profité justement du contexte en cours pour lancer leurs innovations. Et quand on efface tout ce contexte et tous les gens autour, les premières personnes qu'on efface, ce sont les femmes, parce que elles sont effectivement beaucoup moins souvent des profils saillants, parce que vous connaissez tous les logiques d'inégalité beaucoup, au sens large, mais en gros, elles ont moins accès aux postes à responsabilité, aux postes de pouvoir, qui font que quand on écrira l'histoire plus tard, ce seraient les premières qu'on verrait si jamais elles étaient à ces postes.
Pour expliquer ça, vous mobilisez un concept d'Aimé Césaire, l'oublioir.
L'oublioir, c'est parce que en fait, la même chose arrive bien sûr aux personnes non blanches, alors qu'il y en a, évidemment qui ont participé à l'histoire du numérique mondial, mais c'est pareil. Je parle de celui-là, je parle aussi de l'effet Matilda, qui est un effet qu'on applique plus spécifiquement à l'histoire des sciences, mais qui est récurrent, et qui consiste à attribuer les innovations de femmes à des hommes. Tout ça, c'est autant de mécanismes qui fonctionnent plus ou moins de la même manière, mais dont le résultat final, c'est qu'on oublie plein de personnes, toujours des personnes issues des mêmes minorités, même si les femmes sont une majorité numérique, quand on écrit les histoires, quand on écrit l'histoire en fait.
Et Amélie Lenoir, cet effet oublioir,
où on pense que les femmes, encore plus les femmes non blanches, je n'en parle même pas, sont incapables de travailler en tant que créatrices de contenu vidéo à succès sur Internet, parce qu'Internet, c'est une affaire d'hommes. Comment ça se caractérise? Vous faites des masterclass souvent chez les Internets, vous faites beaucoup d'accompagnement. Comment est-ce que vous avez l'impression que ça se caractérise chez les créatrices de vidéos, ces conséquences de l'effet oublioir? Est-ce qu'il y a une crise de légitimité chez les... chez les youtubeuses, chez les streameuses, chez les instagrammeuses aussi?
Oui, justement, vous avez répondu à la question. C'est vraiment ça, en fait, on voit des hommes réussir et très peu de femmes. Et on se dit qu'on n'a pas forcément sa place là-dedans. Et également, même si on a toutes les compétences nécessaires, on va soi-même avoir le syndrome de l'imposteur et se dire que non, on n'est pas capable. Alors que c'est totalement faux. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de redonner confiance à ces femmes et ces personnes non binaires en faisant du coup des cycles de masterclass et d'ateliers sur des sujets très techniques, ou alors des masterclass, on va inviter quelqu'un d'inspirant qui est vraiment vidéaste, fait son métier depuis longtemps. Et le but, c'est justement de pouvoir les inspirer, se dire je suis capable, ou alors je ne suis pas capable, mais avec cet atelier-là, je vais apprendre à faire et je vais être capable. Et on fait ça, certains de ces ateliers-là et de ces masterclass-là sont en non-mixité, donc femmes et personnes non-binaires, et ça permet d'avoir un espace un peu sain où les femmes et les personnes non-binaires peuvent poser les questions sans avoir peur du ridicule. Et c'est vraiment une atmosphère assez différente.
Et alors, j'aimerais qu'on parle de consentement pour compléter ce tableau qu'on dresse de la manière dont Internet fonctionne et peut structurer des inégalités. Vous parlez de consentement, justement, vous en avez parlé tout à l'heure en parlant des cookies. Donc, on n'arrête pas sur Internet de dire « Ok, oui, je like cette photo », mais en fait, derrière, en fait, c'est Facebook qui va récupérer ce que j'ai liké, cette information, et la vendre. Et donc, vous expliquez, Mathilde Sayou, que le consentement, il est aussi biaisé et vous vous interrogez si c'est du vrai consentement, en fait, quand on circule sur Internet. On pourrait se dire, c'est assez facile de se dire, écoutez, on peut rejeter la machine tout court, tant pis, on désinstalle tout. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Ça fait 20 ans qu'on a appris à dire oui, etc. Et on ne se rend pas forcément compte de ce que ça implique.
Pour le consentement RGPD, ça fait un peu moins longtemps en réalité. Le RGPD est passé en 2016. Mais justement, une des raisons pour lesquelles j'explore cette notion, c'est que je trouvais intéressant, étonnant... Bref, j'ai eu envie de comprendre pourquoi, à peu près au même moment, même si les événements, on sait lesquels ce sont, mais au même moment, on convoquait la notion de consentement en ligne, donc en Europe, introduction du RGPD en particulier à partir de 2016, et dans la société, bah, pour un sujet très précis, qui sont les relations interpersonnelles, principalement de contexte hétérosexuel, c'était post-MeToo, en gros, on était là, pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes victimes de violences sexistes, en particulier sexuelles? Qu'est-ce qui se passe? Et je trouve qu'en fait, à l'époque, on a discuté consentement. Il y a des articles qui sont sortis sur la zone grise, ce moment où on ne comprend pas trop s'il y a eu consentement ou pas. Et après, il y a eu toutes les vannes et les reprises de discours américains. Est-ce qu'il va falloir qu'on signe des contrats? Et en fait, je pense qu'on a loupé une opportunité à ce moment-là de réfléchir à ce que c'était vraiment le consentement et toute la polysémie qui recouvre. Et du coup, potentiellement aussi, tous les pièges qui recouvrent aussi. Parce que justement, comme on n'y réfléchit pas, on ne voit pas forcément... tout son potentiel et tous ses risques. Et donc je réfléchissais à cette question, je cherchais des liens avec le numérique, et là je tombe sur le travail de Geneviève Fraisse qui a fait un essai qui s'appelle Du consentement, qui est tout petit et que je recommande à tout le monde. Ça ouvre très grand l'esprit, c'est vraiment super. Et c'est elle qui explique que ce concept, il est quand même très complexe et on devrait tous s'y pencher un peu plus, parce que selon le contexte, il peut vouloir dire l'accord plein et entier, qui est a priori ce qu'on entendait justement le plus quand on s'est mis à en parler dans le cadre des relations interpersonnelles, post-MeToo, vraiment dans une logique très féministe et point barre, quoi. Mais ça peut aussi vouloir dire la soumission. Quand on dit « je consens aux règles de l'État », par exemple, bah, on n'a pas tellement eu le choix en réalité, et pourtant on y agrée. Et donc, la question que je me posais ensuite, et que je me pose, et que j'ouvre, et que je vous pose à tous, lecteurs et auditeurs, c'est dans quel régime est-on vis-à-vis des entreprises numériques ? Parce que, en soi, ça reste des entreprises privées, c'est pas l'État. Est-ce que c'est logique qu'on se retrouve à se soumettre à ce qu'elles veulent, sachant que elles, ce qu'elles veulent, c'est du profit potentiellement en manipulant l'utilisateur. C'est ça le problème. C'est que même parfois, quand on ne consent pas, donc quand on exprime notre volonté, elles passent outre et elles vont quand même collecter nos données. Ou alors, elles essaient de forcer notre consentement en faisant les dark patterns et les interfaces truquées dont on parlait tout à l'heure, qui jouent sur notre biais cognitif et qui nous poussent à faire des choses que si on avait été en pleine possession de nos moyens, on n'aurait pas nécessairement fait. Ça ouvre énormément de questions et je trouvais intéressant d'en montrer quelques-unes, même si évidemment je n'ai aucune réponse fixe parce que je doute qu'il y en ait en réalité. Voilà.
En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas.
Justement, c'est ce qu'on va essayer de faire dans les quelques minutes qui nous restent, mais c'est de réfléchir en tout cas à des solutions, à des manières de réfléchir autrement à ces sujets-là. Et juste pour revenir sur le RGPD, est-ce que les États, est-ce que les institutions peuvent jouer un rôle de garde-fou là-dessus, comme la CNIL quand même, qui est censée protéger.
Complètement, la CNIL, elle est super, elle fait plein de trucs trop bien. J'adore la CNIL. bien sûr que les États, bien sûr que les législateurs peuvent faire des choses, bien sûr aussi que les citoyens peuvent faire des choses en allant voir leur législateur et en leur disant réagissez plus vite sur telle ou telle problématique. J'aurais par exemple un petit sujet cyberharcèlement à leur soumettre, même si c'est un serpent de mer. Je pense qu'on a quand même régulé un peu tard, un peu trop tard. Après, faut quand même se rendre compte que c'est difficile comme contexte parce que Internet est mondial. Les plus grandes entreprises sont américaines, donc on ne peut pas forcer les Américains à légiférer s'ils n'ont pas envie. Mais je dois dire quand même que je trouve que la position européenne est plutôt intéressante. C'est assez chouette d'être ici sur ces questions-là, puisque l'Union européenne essaye de se positionner en leader sur les questions d'encadrement et de protection des droits fondamentaux. Après, est-ce qu'elle le fait suffisamment sur les questions d'intelligence artificielle ? Il y a des débats encore très ouverts. Mais bien sûr que les législateurs peuvent réguler, et même qu'ils doivent, et peut-être qu'ils auraient dû le faire avant, mais on ne peut pas réécrire l'histoire. Donc voilà.
Est-ce que vous avez l'impression que le futur de nos mobilisations sociales, ce sera des mobilisations vraiment contre tout ça, contre ces algorithmes, parce que chez Amazon, pendant le confinement, par exemple, ça a commencé un peu. Ils ont commencé à se mobiliser contre l'utilisation de tous ces algorithmes et de toutes ces intelligences artificielles qui les faisaient travailler encore plus dur en collectant encore plus d'infos sur leur rythme de travail, comment ils travaillent, etc. Est-ce que vous avez l'impression, après avoir écrit ce bouquin, que c'est un peu ça qu'on voit arriver là.
Alors, à la fois, oui, il y aura certainement, il y en aura toujours des mouvements sociaux contre des dynamiques lancées par des questions numériques. Mais justement, ce qu'on va aussi de comprendre, et ce que j'essaye de participer à expliquer, c'est que le numérique ne sort pas de nulle part, c'est des humains qui l'ont créé. Donc, typiquement, vous prenez l'exemple là, des algorithmes et des machines utilisées par Amazon pour faire travailler les gens plus dur. Ces machines, elles ne viennent pas de nulle part. C'est quelqu'un qui a décidé de faire travailler les gens plus dur avec ou sans respect de X
législation voilà. De travail.
Donc à terme, potentiellement, ça va être des questions numériques qui vont soulever un axe de protestation, mais à terme, ça reste des protestations sociales, contre, à mon avis, le problème principal actuellement, c'est l'accroissement des inégalités, dans tous les sens, pas forcément que genre. Et potentiellement, oui, il va y avoir des mobilisations pour lutter contre cette accroissement des inégalités.
Amélie Lenoir, la clé aussi, c'est de s'organiser, de se renseigner et sans doute d'apprendre à comment se protéger ou comment mieux utiliser ces plateformes-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous développez avec les internets ?
Alors, nous, justement, on aimerait bien parler de ce sujet de cyberharcèlement parce que c'est vraiment quelque chose qu'on nous demande tout le temps et on a un peu voulu s'en écarter, justement, parce que notre but, c'était surtout d'accompagner les femmes et de les valoriser. Toujours est-il que ce problème existe toujours. Là, au bout de plus de 5 ans qu'on existe, c'est toujours un problème majoritaire. Donc on aimerait beaucoup justement en discuter et voir quelles solutions on pourrait apporter. et surtout voir quelles organisations pourraient nous aider pour ce problème-là. Mais il y a aussi un côté éducation, en fait, qui est très, très important sur le cyberharcèlement, parce que même si c'est pas des algorithmes qui permettraient de stopper certains mots, certaines vagues de cyberharcèlement, il n'en est pas moins que ça pourrait exister d'une autre manière. Et le but, c'est, je pense que vers là où on devrait se concentrer, c'est plus l'éducation des plus jeunes sur ces problèmes-là.
Et notamment, sans doute aussi le fait, l'importance de protéger aussi sa vie privée en ligne, ou en tout cas savoir ce que ça implique d'utiliser les réseaux.
Oui, après, la plupart des femmes qui se font cyberharceler savent déjà ça implique de partager leur vie sur Internet. Mais je dirais que le problème vient rarement des victimes, mais plus des personnes qui harcèlent. Et je pense qu'elles sont très très au courant déjà de base ce que ça implique. Dans tous les cas, après une première vague de cyberharcèlement, elles vont s'en rendre compte. Et c'est surtout, je pense, une question d'éducation et aussi de justice, qu'il y ait des vraies peines, que la police prenne au sérieux les plaintes, aille réellement chercher l'adresse IP des personnes qui ont commis une quelconque violence et qu'il y ait réellement une suite avec la justice.
Mathilde Saliou, malheureusement on n'a pas le temps de développer plus que ça, mais ce que vous donnez en conclusion de votre livre, les pistes que vous donnez, c'est vulgarisation, care et décentralisation. Donc vulgarisation, vous le faites en expliquant ces sujets-là, et le care, en gros, pour résumer, c'est qu'il y ait plus d'empathie sur les réseaux et dans la manière dont on fonctionne.
Les théories du care féminisme, il me semble qu'elles peuvent tout à fait être appliquées ou utilisées pour observer des fonctionnements numériques, puisque à la base, quand même, Internet, c'est une technologie du lien. C'est un truc qui permet de se connecter avec énormément de monde partout. Donc si on remettait ça au centre plutôt que la violence des propos actuels, ce serait quand même vachement plus sympa. Et potentiellement, ça pourrait aussi être un outil pour lutter contre certains phénomènes de radicalisation, donc masculiniste ou autre. Parce que on n'a pas encore énormément d'études scientifiques, mais ce qu'on voit un petit peu, c'est que quand quelqu'un tombe dans une spirale de complotisme ou de quelque chose comme ça, souvent, hors ligne, ça se traduit par des pertes de liens sociaux. Donc si on arrivait à bloquer ça juste avant que ça arrive, à garder le lien avec ces personnes, peut-être qu'on pourrait les sortir un peu de ces spirales dangereuses. Mmh.
Et donc la décentralisation, c'est aussi essayer de s'autonomiser, et de s'organiser comme le font des associations comme les internets, d'essayer de créer un web 3.
Oui et non, parce que ce mot-là, il devient un peu chargé aussi de sens divers avec le monde crypto. Mais oui, en tout cas, permettre que la connaissance et les capacités numériques, mais aussi les connaissances sur les dynamiques de lutte contre les inégalités, soient divisé partout dans la société, parce que tout à l'heure j'appelais beaucoup à la régulation, mais la société civile peut aussi faire plein de choses en se constituant en réseau, et je suis sûre que ça peut permettre de répondre à certaines problématiques.
En fait, en conclusion, il faut retourner à l'utopie d'Internet.
Exactement.
C'est ça qu'il faut viser, en fait, partager des bonnes ondes sur Internet. Voilà.
Merci beaucoup, Amélie Noir. On peut vous retrouver votre association Les Internets sur Internet, en ligne.
Mais pas que, vous avez plein d'actions, les masterclass et plein d'autres choses. Et voilà, lesinternet.fr.
Et Mathilde Saliou, votre livre, donc, Technoféministe, sort demain chez Grasset.
Exact. Voilà.
Merci beaucoup.
À retrouver dans toutes les librairies indépendantes. Combination. I see people on
dance wombo lombo. So I lock up and keep Cocorola Begondo.
C'est le moment de notre dernière chronique, c'est la chronique baroudeuse de Nolwenn. Salut Nolwenn.
Salut Pauline.
Tu vas nous parler de quoi cette fois ?
Alors notre baroudeuse du jour s'appelle Marie. Marie est partie faire du volontariat en Suède, mais très rapidement, elle a écourté son séjour car l'atmosphère avait des allures de secte.
Baroudeuse.
Je commence à lire le truc et c'était « Le Guruji ne vous apprendra rien, vous apprendrez à son contact, il ne vous dira pas ce que vous devez faire, vous le saurez à l'intérieur de vous quand il vous parlera. » C'est basé sur rien en fait, juste il vous parle et puis ça va allumer la lumière en vous. Et là je me suis dit « Ouais non, c'est quand même vraiment bizarre tout ça. Je vais partir parce que j'avais un peu peur de me dire si je reste, je vais peut-être pas réussir à partir en fait. » Je m'appelle Marie, j'ai 25 ans, j'habite dans les Hautes-Alpes et je suis professeure des écoles. Je suis partie en 2019 en voyage, j'étais en Suède et je faisais un volontariat, donc j'étais censée rester 6 semaines et au final je me suis rendu compte que c'était certainement une secte. J'étais en année de césure dans mes études, je connaissais pas trop le yoga, je me suis dit bah, pourquoi pas, j'étais tombée sur cette annonce qui présentait... un lieu comme un endroit où tout le monde pratiquait le yoga, une communauté où on mangeait végétarien, c'était important pour moi, etc. Et ça avait l'air très spirituel et très... bon, ça avait l'air bien sur le papier. J'arrive sur le lieu, donc le lieu était magnifique. Ils avaient un terrain incroyable de je sais pas combien d'hectares, mais c'était super grand. Ils avaient même un lac, une rivière sur leur terrain. On m'a dit que j'étais la seule volontaire pour l'instant et qu'il y avait que des gens de la communauté qui étaient là. Tout le monde était habillé avec des toches de couleurs et des écharpes blanches, comme un peu des écharpes de Miss France, et des personnes qui avaient entre 30 et 60 ans à peu près. Et ils étaient une vingtaine, je pense. Il y a un des membres de la communauté qui m'a fait visiter, du coup, surtout l'extérieur, les différents bâtiments, etc. Donc ils sont assez connus pour un festival qu'ils font chaque année en été, où ils reçoivent pas mal de personnes quand même. Et en fait, quand il me parlait, cet homme qui devait avoir 35 ans à peu près, il me disait que lui, avant, il était perdu dans sa vie, qu'il ne savait pas trop ce qu'il voulait faire et qu'un jour, il était venu au festival et que c'est là qu'il avait rencontré Dieu et que du coup, maintenant, il avait trouvé un but à sa vie et il ne se voyait plus partir d'ici, en fait. moi je me disais, ah oui, c'est bizarre. Enfin, c'est pas si bizarre, mais c'est. Ça a l'air vraiment intime et profond ce qu'il ressent et comment il vit le truc, parce qu'il était comme empli de quelque chose quand il parlait, en fait. Un peu plus tard, on m'a dit, bon, bah, tu vas rencontrer le Guruji. Et là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que. Qui sait ? Enfin, à moitié qui sait, parce que je me souvenais dans l'annonce Workaway, j'avais lu on suit les enseignements du Guruji Srivas. Et je m'étais dit, ça doit être un truc genre. Enfin, on suit les enseignements de quelqu'un qui est mort il y a 500 ans ou quelque chose comme ça. Et là, on me dit, tu vas le rencontrer. Donc la première pensée dans ma tête, c'est, ah, mais il est vivant, en fait. Je rentre et je vois que cet homme-là, c'est celui qui était dans la photo, dans la voiture. Et je l'avais vu aussi dans la grange des bénévoles. Il était à plein d'endroits, il y avait des livres, des trucs, des machins. Il commence à me demander comment est-ce que j'ai connu le truc, voilà, combien de temps je reste. Donc moi, je lui dis 6 semaines. Mais déjà, dans ma tête, je me disais, non, mais je ne pense pas que je vais rester aussi longtemps. Et à un moment, il me dit, t'avais déjà entendu parler de moi ? Je dis, bah non, et tu m'avais jamais vu ? Bah j'ai dû sur les photos, il dit, et ça va, je te déplais pas trop ? Et là, je fais, et j'ai pas su quoi répondre, je pense que j'ai un peu changé de sujet, et voilà. Je suis sortie de son bureau, c'était l'heure de manger. Là, dans ma tête, je me dis, mais où est-ce que j'ai mis les pieds ? Et pourquoi est-ce que je suis là, en fait ? Il y avait à peu près, je sais pas, 45 minutes, une heure de cérémonie, où... Il chantait des chansons, il récitait des espèces de prières. C'était des chansons un peu bateau, de ce que je me souviens. C'était « J'aimerais avoir des ailes pour pouvoir voler, j'aimerais être un poisson pour pouvoir nager », enfin des trucs un peu comme ça. Et à la fin, il y avait un thé à boire, sauf que ça n'avait absolument pas le goût de thé. Enfin, je sais pas ce que c'était toujours maintenant. C'était dans un espèce de petit bol, et ça avait aucune couleur et un goût un peu bizarre. Enfin, je sais pas. Moi, j'avais l'impression de boire comme de la salive un peu. Du coup, c'était... pas très agréable. Et je savais pas si je devais tout boire, si je devais tout boire d'un coup, si je devais boire par petites gorgées. Et puis surtout que c'était les yeux fermés, donc je pouvais pas copier sur les autres. Bon, à l'époque, j'avais 21 ans, donc je me sentais pas encore à l'aise d'affirmer vraiment mes convictions à l'oral face à des personnes comme ça. Du coup, j'ai écrit une lettre en me disant ce sera plus simple si je la fais lire. J'ai donné la lettre à celle avec qui j'avais un peu échangé, qui l'a lu, et ça avait pas l'air de trop la surprendre, en fait. Comme s'il y en avait d'autres avant moi qui étaient partis rapidement après leur arrivée. À aucun moment je me suis sentie vraiment en danger ou menacée. C'est quelque chose qui m'a marquée, et je pense que la morale, c'est que avant j'avais beaucoup de mal à m'affirmer, à pas dire vraiment quand j'étais mal à l'aise, etc. Mais là, je savais que j'avais pas le choix de dire que j'étais mal à l'aise. J'étais censée rester 6 semaines à cet endroit-là, donc j'ai pas pu rester 6 semaines. Je suis rentrée et au final, je suis repartie un mois après pour la suite de mon voyage, où j'étais majoritairement toute seule en Russie, au Japon et au Canada. Et ça s'est très bien passé et ça m'a pas du tout fait peur, au contraire. Je pense que ça m'a plus donné confiance en moi de réussir à m'affirmer, en fait, dans ce qui était arrivé.
Merci Nolwenn pour cette chronique. C'est la fin de cette émission et on a beaucoup trop traîné, donc on vous retrouve dans 8 semaines exactement, et on a hâte de vous retrouver. Merci Mao de m'avoir accompagnée. Salut tout le monde, vite.
Salut. Merci.